sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le scientifique de renom international Jules Hoffmann, ayant été élu le 1er mars 2012 à l'Académie française, à la place laissée vacante par la mort de Madame Jacqueline de Romilly, a été reçu le jeudi 30 mai 2013 sous la coupole de l'Institut de France au sein de l'Académie française par Monsieur Yves Pouliquen au 7e fauteuil. Ses parrains sont Messieurs Jean-Marie Roire et Amine Malouf. Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de la séance de réception de l'académicien, prix Nobel de médecine, déjà membre de l'Académie des sciences depuis 20 ans. Vous entendrez d'abord le discours de réception de M. Jules Hoffmann, puis la réponse à ce discours de réception, prononcé par Yves Pouliquen.
Mesdames et messieurs de l'Académie, il y a 20 ans, je suis entré pour la première fois en séance solennelle sous cette coupole, lorsque je fus élu membre de l'Académie des sciences. J'étais très ému et me souviens d'avoir longuement et vainement réfléchi sur le sens des paroles du prophète Ézéchiel inscrites sous les voûtes de la coupole. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque que je me retrouverais dans ces mêmes lieux, dans une situation aussi émouvante que celle d'aujourd'hui. Je vous exprime, mesdames et messieurs les académiciens, ma profonde reconnaissance de m'avoir élu dans votre compagnie et vous assure de mon engagement déterminé à remplir les fonctions que vous venez de me confier. Le cardinal de Richelieu avait demandé à l'Académie française de définir l'usage du français. La pérennité de l'Académie française se fonde sur celle de la langue française et tire d'elle sa légitimité, comme nous l'a rappelé Madame la secrétaire perpétuelle Hélène Carré-Dancos dans son récent livre sur l'histoire de l'Académie. Cette langue, servant également depuis des siècles comme véhicule de la pensée et de l'enseignement scientifique, l'Académie française a régulièrement élu des scientifiques dont la liste est devenue longue. Il est bien triste de rappeler que l'un des plus éminents scientifiques membres de l'Académie française, François Jacob, nous a quittés il y a quelques semaines. Il a profondément marqué la science par ses contributions exceptionnelles à la compréhension de l'expression des gènes et, au-delà, toute la société par ses réflexions philosophiques sur l'évolution du monde vivant. Je ne peux m'empêcher, en ce moment, d'avoir une pensée affectueuse et reconnaissante pour mes parents, tous deux disparus. C'est avec inquiétude qu'ils me voyaient quitter le Luxembourg natal pour la France afin d'y faire mes études universitaires. À l'époque, le projet familial voulait que je retourne au Luxembourg dès la fin de mes études pour y devenir enseignant de biologie comme mon père. Je ne connaissais personne en France quand j'ai pris, le 13 octobre 1961, le train de Luxembourg, Thionville, Metz, Strasbourg. J'étais extrêmement bien accueilli et j'ai eu la chance de rencontrer au fil des années, à Strasbourg et à Paris, plusieurs mentors exceptionnels, d'ailleurs tous membres de l'Académie des sciences. Ma carrière s'est par la suite sereinement déroulée dans mon pays d'accueil et j'ai maintenu des relations heureuses avec ma famille et mes amis au Luxembourg. En cet instant solennel, je tiens à exprimer ma grande reconnaissance à la France pour son accueil et pour les opportunités qu'elle m'a offertes. Je n'oublie pas ce que je dois au Luxembourg, notamment une excellente formation scolaire, en particulier dans le domaine des langues. Mesdames et messieurs de l'Académie, vous m'avez élu le 1er mars de l'année passée au fauteuil occupé par Madame Jacqueline de Romilly. Je n'avais pas eu le privilège de connaître personnellement Madame de Romilly. Par ailleurs, je ne suis pas helléniste. J'ai certes, pendant mes études secondaires au Luxembourg, bénéficié d'un enseignement classique, mais qui fut surtout latiniste. Vous parlez à vous, qui êtes si nombreux à avoir connu, admiré et aimé Jacqueline de Romilly, vous parlez à vous de son œuvre éblouissante que je n'ai vraiment découverte que depuis mon élection, m'a d'abord paru une tâche écrasante. Mon désarroi initial a cependant cédé le pas à des sentiments plus apaisés lorsque j'ai commencé la lecture du livre intitulé « Jeanne ». J'avais trouvé ce livre au lendemain de mon élection dans une librairie proche de l'Institut. Jacqueline de Romilly y retraçait sa propre vie en miroir de celle de sa mère Jeanne. Rédigé immédiatement après la mort de celle-ci, le texte ne fut publié, à la demande de Jacqueline de Romilly, qu'après son propre décès, 30 ans plus tard. Ce livre m'a profondément touché et m'a permis de faire une première connaissance de Jacqueline de Romilly. Au fil de la lecture de ses nombreux ouvrages, j'ai pénétré plus profondément dans le monde intellectuel et humain de Jacqueline de Romilly grâce à l'élégance avec laquelle il décrit comment elle a abordé, serré, discuté, pesé les thèmes qu'elle a traités au cours de sa longue carrière. Je voudrais aussi signaler que j'ai tiré un grand profit de la lecture d'un livre intitulé « Une certaine idée de la Grèce » qui retrace les entretiens de Jacqueline de Romilly avec le latiniste Alexandre Grand d'Asie de la Sorbonne. Celui-ci lui a posé de nombreuses questions sur ses travaux, leurs origines et motivations. À toutes ces questions, Jacqueline de Romilly a répondu avec clarté et elle a ajouté, à la fin de chacun des 7 chapitres de cet ouvrage, quelques pages de réflexions très personnelles qui éclairent admirablement bien sa pensée et son cheminement. Bien entendu, les travaux et la personnalité lumineuse de son auteur ont déjà fait l'objet de nombreux écrits et analyses. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ma propre perception de l'œuvre de Jacqueline de Romilly telle qu'elle s'est dégagée au fil de mes lectures. Ce faisant, je ferai souvent appel à des citations tirées de ses écrits, à la fois pour illustrer son style et sa pensée, et pour la rendre plus présente parmi nous en ce moment. Je suis professeur de grec, et l'Athènes du 5e siècle m'émerveille. Dans cette courte phrase parue en 2005, Jacqueline de Romilly se présente avec la simplicité et la précision qui la caractérisent. Qui était donc cette grande helléniste? Jacqueline est née en 1913. Son père, Maxime David, fut reçu premier au concours de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et premier à l'agrégation de philosophie. Il était gai et étourdi, écrira Jacqueline de Romilly plus tard, gai et dans la lune. Il devait attendrir Jeanne par ce mélange de supériorité, de gentillesse et de gaucherie. C'est à la Sorbonne, pendant les cours de Henri Bergson, que Maxime David rencontra sa future épouse Jeanne. Jacqueline de Romilly nous parle d'un très jeune amour dans un contexte très ancien, un amour de jeunes étudiants à une époque fleurie et réservée. En 1909, les deux jeunes gens se marient et Maxime David est affecté par l'éducation nationale à Avignon, puis à Chartres où Jacqueline est née. C'était le bonheur humain qui précède le désastre, écrira Jacqueline de Romilly. Dès les premiers jours de la guerre de 1914, Maxime David est incorporé puis envoyé sur le front. Le 2 octobre, un Samar-Lestriau dans la Somme, il est tué d'une balle dans la tête au moment où il sortait de la tranchée. Il n'avait rien vu de la guerre, dira plus tard Jacqueline de Romilly. Comment allait désormais se dérouler la vie de la petite orpheline Jacqueline, âgée seulement d'un an? Dans Jeanne, le livre auquel j'ai déjà fait référence, Jacqueline de Romilly nous donne une réponse poignante. Le mari de Jeanne n'allait pas revenir, son frère non plus, ni le frère de son mari. Les fiancés des amis et des cousines avaient été tués aussi. Jeanne n'avait plus personne, ni plus rien. Mais Jeanne s'était jurée que mon enfance ne se ressentirait pas, ou le moins possible, de la mort de mon père. Elle s'était jurée de ne pas me parler de mort, ni de deuil, ni de guerre, de ne pas pleurer devant moi, de ne pas laisser la tristesse mordre sur mes premières années. Elle, qui restait à ce point à son protection, elle éleva pour me protéger, avec une vaillance tenace, un véritable rempart de tendresse. Au point que Jacqueline de Romilly pourra écrire que le monde montré par Jeanne lui semblait merveilleux et que l'image globale de ces années était celle d'une magnifique gerbe de réussite, d'amitiés folles et sages, de petits plaisirs et de grands espoirs. Jacqueline nous avoue également qu'avec la vigilance de sa mère, elle fut une excellente élève. Sa mère désirait l'avoir première de classe. Et Jacqueline nous confie, « Je l'ai été avec une constance obstinée. » Lors de ses 17 ans, en 1930, Jacqueline David obtint 2 prix au concours général qui venait seulement de s'ouvrir aux filles. Et 3 ans plus tard, elle entrait à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Pour les prix au concours général et pour son concours d'entrée à l'école normale supérieure, Jacqueline David réussissait brillamment dans les mêmes matières que son père 20 ans plus tôt. C'est en 1933, Jacqueline venait d'avoir 20 ans, que sa mère lui fit un cadeau qui allait avoir une influence déterminante sur sa vie. Écoutons-la. « Ma mère m'a offert un jour une édition ancienne dont la reliure en parchemin lui avait plu. Nous partions en vacances et je souhaitais faire un peu de grec pour m'entraîner. Comme elle m'avait donné ses volumes, il y en avait 7, j'en ai emporté 1 ou 2 par zèle de bon élève. Il s'agissait en fait de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, une œuvre que Jacqueline de Romilly ne connaissait pas et dont elle nous dit d'emblée qu'elle a été fascinée. Alors que Jacqueline était engagée dans son travail de thèse précisément sur Thucydide, la guerre éclata. Renonçant à la bourse de recherche dont elle bénéficiait, elle demanda un poste d'enseignant et fut nommée à Bordeaux. En 1940, Jacqueline David se marie avec Michel Worms de Romilly, qui était éditeur et travaillait aux éditions Les Belles Lettres. Mais la vie du nouveau couple est bouleversée par les lois de Vichy sur le statut des Juifs. Comme l'écrira plus tard Jacqueline, « Jeanne n'était pas juive. Je ne l'étais qu'à moitié par mon père. Je m'étais mariée à l'église parce que mon mari était catholique. Mais mon mari, demi-juif comme moi, avait un grand-père juif de trop. Il était aux 3/4 juif, donc juif, et moi, par mon mariage avec un juif, j'étais juif. » Pour Jacqueline, ces lois criminelles eurent des conséquences dramatiques. Elle fut avisée qu'à partir de décembre 1941, elle ne pourrait plus enseigner. « Ni mon mari, ni moi, ne pouvions rentrer à Paris, nous dit-elle. Ni mon mari, ni moi n'avions plus de métier. Ni mon mari, ni moi n'étions plus en sûreté. » Les années de guerre que passent Jacqueline et son mari, sa mère et sa belle-famille, ont été très dures et sont relatées en détail dans le livre « Jeanne ». À la Libération, Jacqueline trouve un poste d'enseignant à Versailles. En 1947, elle soutient sa thèse à la Sorbonne. En 1949, elle est nommée professeure à Lille, puis en 1957, professeure à la Sorbonne. En 1973, Jacqueline est la première femme élue au Collège de France et en 1975, la première femme à entrer à l'Institut de France, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Enfin, en 1988, elle est élue à l'Académie française, 2e femme à rejoindre cette académie après Marguerite Yourcenar. Jacqueline de Romilly s'est éteinte en 2010, dans sa 98e année. Le nom de Jacqueline de Romilly est indissociablement lié à celui de Thucydide. Le cadeau maternel dont je viens de parler est en effet devenu structurant pour l'œuvre, la carrière et la vie même de Jacqueline de Romilly. Qui était Thucydide ? Ce riche Athénien avait une 30aine d'années lorsqu'éclata la guerre du Péloponnèse. Rappelons-nous que le 5e siècle, qui fut si brillant pour la Grèce, lui a aussi apporté 2 guerres terribles. Les guerres médiques, avec les noms évocateurs de Marathon et des Thermopyles, opposaient au début du siècle les Grecs coalisés aux Perses et se sont terminées par la victoire des Grecs. La guerre du Péloponnèse, par contre, opposait vers le dernier quart de ce siècle les 2 grandes puissances grecques, Sparte et Athènes, ainsi que leurs cités alliées respectives. Cette guerre dura près de 30 ans et s'étendit de la Grèce à une large partie du monde méditerranéen. Elle se termina par la défaite d'Athènes. Ses répercussions géopolitiques furent pour le monde d'alors, toute proportion gardée, aussi profondes que celles des grands conflits du XXe siècle pour notre monde actuel. Thucydide était l'un des stratèges d'Athènes dans les premières années du conflit, mais ne put empêcher la prise de la ville d'Amphipolis par Sparte. Athènes lui en tint rigueur et le condamna à 20 ans d'exil. Thucydide passa cet exil en voyageant à travers la Grèce et fut reçu aussi bien dans le camp des Spartiates que dans celui des Athéniens, malgré sa condamnation à l'exil par la cité d'Athènes. Il suivit la déflagration avec impartialité et en analysa de façon sobre à la fois les causes et les déroulements. Thucydide fit ainsi un récit en 7 volumes de la guerre du Péloponnèse, dont il voulait, selon ses propres paroles, faire un trésor pour toujours. De fait, cette œuvre est reconnue comme l'un des monuments les plus importants de l'histoire universelle. J'étais ébloui, nous dit Jacqueline de Romilly, par la fermeté de la pensée, l'ambition de conquête intellectuelle que révèle l'œuvre de Thucydide. Je découvrais un monde où l'intelligence semblait vouloir conquérir le réel, où les mobiles humains se pressaient, s'affrontaient en pleine lumière, où enfin l'ambition et la peur se dressaient face à face, toujours présentes dans un conflit éclatant. Ce monde et cette œuvre respiraient la fierté. Et Jacqueline de Romilly nous rappelait qu'à la même époque, Périclès faisait construire l'Acropole pour témoigner à jamais de la gloire d'Athènes. Cette fierté du présent m'a frappé dès l'origine, nous dit-elle, et davantage encore aujourd'hui par comparaison avec trop de formes de pessimisme. La thèse soutenue par Jacqueline de Romilly à la Sorbonne porte sur Thucydide et fut l'objet de son premier livre intitulé « Thucydide et l'impérialisme athénien ». Elle raconte avec malice que lors de la soutenance, un ami peintre avait fait une esquisse qui la représentait et qui l'avait ornée de la légende « À Thucydide pour la vie ». Elle ajoute « C'est devenu en effet la formule de mon existence ». Quelques années plus tard, en 1956, Jacqueline de Romilly publia un second livre sur cet auteur intitulé « Histoire et raison chez Thucydide ». Puis, en 1990, un troisième, « La construction de la vérité chez Thucydide ». En parallèle, et ceci jusque vers 1970, Jacqueline de Romilly continuait à s'attacher à la traduction de Thucydide. Et, lucide, elle remarque toujours à propos de Thucydide, quel choix surprenant. M'être ainsi attaché toujours à ce texte si peu fait pour une femme, si occupé de guerre et de politique, de bataille et de stratégie, et dans le domaine humain, d'ambition et de colère. La force d'un texte, poursuit-elle, ne cesse de m'éblouir. Mais il y a beaucoup plus, et je m'en rends compte. Plus tard, à chaque instant, cette pensée rejoignait mon époque et mon temps, et elle venait jeter une vive clarté sur ce qui faisait ma vie. Je travaillais à ma thèse sur Thucydide, et je lisais, selon les jours, les textes où s'inscrit si clairement le danger que court un conquérant qui, en accumulant les conquêtes, accumule aussi les hostilités qui, pour finir, auront raison de lui. J'écoutais un jour, au cours de la dernière guerre, les nouvelles, et je lisais un autre jour un petit texte de Thucydide sur la difficulté d'un débarquement dans un pays occupé par l'ennemi. Venaient aussi, au cours des années, des nouvelles cruelles d'actes de barbarie ou bien de massacres lamentables. Et moi, j'en étais à relire le texte où, avec une rare sobriété, Thucydide signale la tuerie qui a eu lieu dans cette petite ville où une bande de thraces alla jusqu'à massacrer les enfants dans l'école. Ou bien je relisais les textes où il s'étend sur les souffrances des prisonniers entassés dans les carrières de Syracuse. À chaque instant, de toutes parts, les rencontres naissaient. Et c'était bien de notre temps que me parlait cet auteur vieux de 25 siècles. Comment avait-il fait, ce diable d'homme, se demande Jacqueline de Romilly, pour atteindre ainsi, sans jamais ou presque prendre parti, sans généraliser, sans risquer d'imprudence, une vérité qui soit encore la nôtre à tout moment. Quel moyen lui avait permis de le faire ? Et quel trait de l'humanité ces rencontres révélaient-elles pour nous ? Et Jacqueline remit de conclure, « Oui, j'ai passé beaucoup d'heures de ma jeunesse et de ma maturité à travailler sur Thucydide. Je le reconnais. Et je sais quels regrets peuvent accompagner cette constatation. Mais au total, quand je repense à l'éclat de ces textes, à la signification du trésor pour toujours, je suis prête à conclure avec les mots de la chanson. Et cela plus de 60 ans après mon premier choix. Non, je ne regrette rien. » En parallèle à son investissement dans les textes de Thucydide, Jacqueline Remy étudiait les œuvres des prédécesseurs de cet auteur, de ses contemporains et de ses successeurs. La littérature grecque lui apparaît alors comme un grand mouvement de découverte des idées et de l'homme. Ce cheminement intellectuel de Jacqueline Remy se reflète dans l'intitulé qu'elle choisit en 1973 pour la chaire qu'elle allait occuper au Collège de France, à savoir « La Grèce et la formation de la pensée morale et politique ». L'œuvre littéraire de Jacqueline de Remy se concentre de toute évidence sur la grande explosion intellectuelle qu'a été le 5e siècle athénien. Mais ce grand siècle prend ses fondements dans une série de mythes et d'épopées antérieures, et notamment dans l'œuvre immense d'Homère, à laquelle Jacqueline de Remy a consacré une attention toute particulière. Est-il besoin ici de poser la question « Qui était Homère ?» Jacqueline de Remy nous précise « J'appelle Homère celui qui a conçu, avec ou sans disciples, le plan d'ensemble de l'Iliade et de l'Odyssée, étant bien admis qu'il a recueilli des chants oraux, en les déplaçant, les corrigeant, les réordonnant dans une composition élaborée. Il ne s'agissait pas d'une invention ex nihilo. On estime qu'Homère a travaillé dans la seconde moitié du 8e siècle. » Jacqueline Remy nous apporte un élément intéressant en soulignant, je cite, « L'épopée homérique mélange des faits qui n'ont jamais été contemporains. Et la langue d'Homère est un mélange de formes d'époques diverses qui n'ont jamais été employées ensemble. » Les réflexions de Jacqueline Remy sur Homère sont admirablement illustrées dans son beau livre sur Hector, le fils du roi Priam et héros malheureux de la guerre de Troie. Dans ce livre, comme dans toutes ses études sur la Grèce antique, Jacqueline Remy cherche d'abord l'humanité qui pointe à travers le récit. Écoutons-la. Le souci d'Homère de célébrer un héros du camp ennemi, en l'occurrence Hector, d'attirer la pitié sur un vaincu, sur un homme voué à la mort et à la torture, ce souci de le montrer comme un homme abattu par la guerre et dont la mort sème un deuil déchirant, constitue, au seuil de notre littérature occidentale, une évocation d'une humanité extraordinaire. Hector est beau, note Jacqueline de Remy, il est grand, il est valeureux, mais il connaît l'erreur et le malheur, il connaît la mort. Tout l'esprit de la tragédie est déjà dans ce choix. Pour moi, précise-t-elle, l'Iliade ressortit plus au genre tragique qu'au genre épique. Toutes les épopées des autres civilisations sont des poèmes de guerre, décrivant des combats héroïques et des exploits meurtriers. L'Iliade, à cet égard, rentre dans les normes. Mais elle s'en distingue précisément par cet élément de pitié et d'humanité qui vient toujours se mêler à l'autre. Et plus loin, Jacqueline Remy nous dit « Il m'a semblé qu'à notre époque, la leçon la plus précieuse et la plus directement émouvante n'était pas le courage du héros en général, mais bien ce grand souffle d'humanité, ce sens si vif de la pitié pour ceux qui sont tués à la guerre et pour les corps maltraités. » Et là, Jacqueline Remy fait certainement allusion à la scène finale de l'Iliade, quand Priam vient supplier Achille de lui rendre le corps de son fils Hector. Le sort réservé au cadavre d'Hector, nous dit Jacqueline Remy, ouvre sur tous les plus grands principes d'humanité dont nous sommes redevables à la Grèce. Et elle cite cette phrase d'Homère, qu'Homère met dans la bouche de Priam, père d'Hector, phrase qui est l'une des plus émouvantes de la littérature ancienne. « J'ai osé, moi, ce que jamais encore n'a osé un mortel ici-bas. J'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui m'a tué mes enfants. » Jacqueline de Romy nous livre en exergue cette belle réflexion sur Homère que voici. L'étonnement me saisit à chaque fois lorsque je pense à ce qu'a représenté dans notre monde et dans notre culture cette obscure guerre de Troie, si éloignée de nos intérêts, si mal connue de nous, si étrangère à nos préoccupations. Qu'a-t-il donc fait, le vieux poète, pour qu'un tel résultat soit possible ? Dès les premiers vers de chacune des deux épopées, on voit que l'intérêt se concentre sur l'homme, sur l'action et sur la responsabilité de l'homme, et que pourtant, cette action se conçoit en fonction des dieux. Et de conclure, tout est si frais, si franc. Je rencontre avec Homère le tout réuni, la transparence des mots, la transparence des images, la singularité des évocations et déjà cet art savant d'employer les mots pour rendre présentes toutes ces impressions, ce qui fait vraiment d'Homère le fondateur de la littérature pour notre culture occidentale. Jacqueline Romy insiste beaucoup sur les deux traits qui, dans Homère, lui paraissent caractéristiques de l'esprit grec de l'époque. D'une part, la présence et l'importance du débat. En effet, nous rappelle-t-elle, les héros discutent, se critiquent, argumentent, et même les dieux s'en mêlent. Et d'autre part, ce qu'elle appelle l'humanité, la douceur, la pitié qui nous touche, nous émerveille et peut-être nous encourage. Ainsi, nous fait comprendre Jacqueline de Romy, dans Homère, nous avons avec la présence du débat et l'insistance sur la condition humaine, les ingrédients de ce qui allait constituer les marques de l'explosion intellectuelle de la Grèce du Ve siècle, la démocratie et la tragédie. Le régime de la démocratie apparaît à Athènes à la charnière entre le VIe et le Ve siècle, quelques années avant les guerres médiques dont l'issue victorieuse pour les Grecs allait changer fondamentalement la situation d'Athènes. Jacqueline de Romy a consacré 3 livres à la démocratie athénienne et a évoqué abondamment ce thème dans ses autres ouvrages. Ce fut de toute évidence pour elle un sujet d'un grand intérêt. Athènes fut une démocratie directe, où le peuple était souverain. En réalité, l'assemblée du peuple ne réunissait que les citoyens jouissant des droits civiques, ce qui excluait de facto les femmes, les étrangers et les esclaves. Tous ces citoyens pouvaient prendre la parole à l'assemblée, qui était l'organe qui décidait de la guerre et de la paix, des expéditions, qui nommait les ambassadeurs, examinait la gestion des magistrats, jugeait tous les procès d'ordre politique. L'Assemblée se réunissait 10 à 40 fois par an, avec le plus souvent 2 à 3 000 personnes, le chiffre pouvant aller jusqu'à 6 000. Les délibérations de l'Assemblée étaient préparées par un conseil de 500 membres. À la fois les membres du conseil et les magistrats étaient tirés au sort parmi l'ensemble des citoyens et ne pouvaient accéder à ces fonctions que pour un an. Ils étaient non rééligibles et le cumul était le plus souvent interdit. Notons cependant avec Jacqueline de Romy que le procédé du tirage au sort ne fut jamais appliqué aux deux fonctions pour lesquelles la compétence semblait la plus nécessaire, les finances et la guerre. Et 10 stratèges élus représentaient en fait, à côté de l'Assemblée du peuple, le véritable gouvernement. Ces stratèges étaient renouvelables et Périclès fut élu et réélu stratège 15 fois de suite. Voilà en résumé pour les aspects institutionnels. Mais au-delà de ces notions formelles, que pouvait représenter cette démocratie pour les Athéniens à l'apogée du rayonnement de leur cité ? Nous disposons d'une description d'un intérêt exceptionnel dans l'un des discours les plus célèbres de l'Antiquité, l'oraison funèbre de Périclès, que celui-ci prononça à l'issue de la première guerre, la première année des guerres du Péloponnèse, en 431, pour les guerriers morts dans les combats de l'année. Cette oraison nous fut transmise par Thucydide, et Jacqueline de Romy y fait allusion de nombreuses reprises. En raison de l'importance historique de ce texte, je voudrais en citer quelques courts extraits. « C'est nous, dit Périclès, qui avons mis la cité d'Athènes en état de se suffire à elle-même en tout, dans la guerre comme dans la paix. la formation qui nous a permis d'arriver à ce résultat, la nature des institutions politiques et des mœurs qui nous ont valu ces avantages, voilà ce que je vous montrerai. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différends entre particuliers, l'égalité est assurée à tous par la loi. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite. Et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa classe sociale s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République. Et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, impriment à celui qui les viole un mépris universel. Ce texte, est-il besoin de le souligner, date d'à peu près 25 siècles, qui n'ont altéré ni sa beauté, ni son intérêt pour nous. Nous pourrions, à la lumière du discours de Périclès, penser que le système démocratique athénien avait atteint sa maturité et allait servir de modèle à d'autres sociétés pour les siècles à venir. N'alliait-il pas justice, liberté, civisme, respect de la diversité de chacun, à ce que Jacqueline de Romilly appelait la douceur grecque, c'est-à-dire la bienveillance, la tolérance et le pardon. Et pourtant, dès la fin du Ve siècle, de nombreuses critiques furent formulées contre ce régime et la façon dont il était pratiqué à Athènes. De nombreux auteurs anciens ont ainsi souligné le danger d'une démocratie directe où chacun avait une voix égale au gouvernement, alors que tous ne possédaient pas une égale compétence. Or, la compétence, nous rappelle Jacqueline de Romilly, met bien en lumière l'importance de l'éducation qui, à Athènes, restait liée aux traditions aristocratiques et n'existait guère en dehors d'elles. Thucydide note que l'exaltation du plus grand nombre paralysait ou entraînait les plus raisonnables. Il montre comment cette situation fut désastreuse pour Athènes lors de l'expédition de Sicile en plein milieu de la guerre du Péloponnèse. Il se trouve malheureusement, note Jacqueline de Romilly, que la démocratie, dans son principe, favorise la démagogie et encourage la flatterie. Dès la fin du Ve siècle, et surtout au IVe siècle, des remèdes sont ainsi proposés au fonctionnement de la démocratie, notamment par Platon, Isocrate et Aristote. Il est ainsi suggéré de ménager, à côté de la souveraineté populaire, une place prépondérante aux plus capables, d'opposer à l'égalité démocratique une répartition qui tiendrait compte des différences de conditions ou de mérite. Cette distinction, pensait-on, permettrait de remédier au manque de compétences et à la volatilité populaire dont l'expérience avait révélé les dangers à Athènes. Mais déjà une page s'était tournée. Aristote n'était pas athénien. Il était précepteur d'Alexandre à la cour de Philippe de Macédoine, à une époque où Athènes avait perdu sa place politique exceptionnelle sur la scène du monde antique. Le grand mérite de l'Athènes du Ve siècle aura été, nous indique Jacqueline Romilly, d'avoir essayé de penser leur régime sous forme de principes, d'en apprécier les mérites, les inconvénients et les devoirs, d'en définir et d'en clarifier la nature. Ainsi, nous dit-elle, les Athéniens de l'époque classique se sont donné le privilège de rejoindre l'universel. Cependant, elle nous fait part également d'une certaine amertume. Je cite « Mais on ne saurait pour autant soutenir que l'expérience a été heureuse et qu'elle a en tout bien tourné. À la grande époque des découvertes a succédé le règne des démagogues, les tromperies des ambitieux et les engouements déraisonnables du peuple ont ruiné la situation. Athènes, qui était si éprise de liberté, n'a pas été assez avisée pour respecter celle des autres. Elle a eu un empire. En se durcissant, celui-ci est devenu impopulaire. Elle a ainsi tout perdu. L'élan lui-même, qui entraînait les citoyens, a progressivement perdu de sa force. Et le fait est que dans la lutte contre Philippe de Macédoine, l'élan démocratique n'entraîne plus la cité. Je ne puis que m'associer à cette amertume en notant qu'à l'enthousiasme pour la démocratie d'un Périclès a succédé une infinie série de déboires et d'erreurs qui ont finalement été fatales à l'expérience athénienne. Et à part quelques étincelles ponctuelles, il aura fallu à l'humanité plus de 2 millénaires pour reconquérir les fondamentaux de la démocratie. Et encore. Comme nous le savons tous, ce mot ne recouvre pas nécessairement les mêmes réalités dans toutes les sociétés contemporaines, ni dans toutes les strates d'une société. Le combat de Périclès n'est pas fini en ce début du XXIe siècle. L'épanouissement d'Athènes après les victoires dans les guerres médiques fut également marqué par l'invention de la tragédie. On estime qu'en un court laps de temps, 80 ans, près d'un millier de tragédies furent produites, dont une petite trentaine seulement nous sont conservées. Jacqueline de Romilly parle d'une éclosion soudaine, brève, éblouissante. Elle fait de la tragédie athénienne une analyse remarquable dans plusieurs livres. Elle nous rappelle que les personnages de la tragédie grecque venaient pratiquement tous d'un passé héroïsé, revêtu d'une certaine grandeur. Et cette grandeur venue de l'épopée, mythe de la guerre de Troie, malheur d'Œdipe, exploit et malheur d'Héraclès, restera jamais attaché au genre tragique. Les mythes sont devenus, dans la tragédie, l'objet d'œuvres littéraires, insistant justement sur la cruauté et le scandale de ces crimes contre nature. Un frère tue son frère, un fils son père, une mère ses enfants, un fils sa mère. On comprend bien, ajoute Jacqueline de Romilly, le retentissement que peut prendre au plus profond de la sensibilité humaine l'évocation de tels malheurs ou de telles émotions. Et la tragédie grecque en tire une force qui n'appartient qu'à elle. L'épopée racontée, la tragédie montra, note Jacqueline de Romilly. Dans la tragédie, en effet, tout est là, sous les yeux, réel, proche, immédiat. On y croit, on a peur. La tragédie tire sa force par rapport à l'épopée d'être ainsi tangible et terrible. En fait, comme l'indique Jacqueline de Romilly, la tragédie grecque porte toujours témoignage sur l'homme en général. La notion de limites inhérentes à la condition humaine est toujours présente. Il est tout autant vrai que la tragédie grecque ne cesse de désigner, par-delà l'homme, des forces divines qui décident de son sort et décident sans appel. Et le cœur ne manque pas de désigner à chaque instant l'action de ces forces surhumaines et la faiblesse de l'homme et la fragilité de sa condition. On comprend ainsi que les malheurs des héros tragiques puissent revêtir une portée terrifiante pour tous. Jacqueline de Romilly introduit cependant une nuance importante en concluant que rien de ce qui arrive n'arrive sans le vouloir d'un Dieu. Mais rien de ce qui arrive n'arrive sans que l'homme y participe et y soit engagé. Le divin et l'humain se combinent, se recouvrent. Après 27 ans terribles, la guerre du Péloponnèse se termine. Athènes est épuisée, son histoire est dans une impasse, comme l'est le genre de la tragédie des grands auteurs. Et, nous dit Jacqueline de Romilly, quand la tragédie grecque touche à sa fin, c'est aussi que l'élan religieux et national qui avait suscité ces grandes productions s'est lui-même ralenti, puis perdu. En 404, à la défaite d'Athènes, Échille avait disparu depuis 50 ans. Euripide était mort depuis 3 ans, Sophocle depuis 2 ans. On joua encore certaines de leurs pièces qui n'avaient pas été achevées ou représentées. Et puis, ce fut tout, écrit amèrement Jacqueline de Romilly. La vie même de la tragédie grecque a cessé en même temps que cessait la grandeur d'Athènes. En épilogue, nous pouvons dire avec Jacqueline de Romilly que la littérature tragique n'a cependant jamais cessé et continue à reprendre les thèmes et héros des tragédies athéniennes. Si les pièces sur Phèdre, Iphigénie, Œdipe n'ont pas cessé de se succéder, il n'y a plus ni évocation mythologique ni chant de cœur. En revanche, les auteurs se servaient de ces personnages pour traiter les problèmes et passions qui occupaient leur époque. Scènes d'amour et analyse des passions du XVIIe siècle français, problèmes politiques de la cité de la guerre au XXe siècle. Et, conclut Jacqueline de Romilly, il semble bien que nous assistions de nos jours à une sorte de renouveau du mythe. En 1984, Jacqueline Remy prend sa retraite au Collège de France, à l'âge de 70 ans. C'est à peu près à cette période qu'elle commence à se tourner davantage vers un public plus large. « Mon combat pour l'enseignement, nous dit cette enseignante, réputée, estimée et aimée, m'avait montré qu'on ne pouvait pas se contenter de défendre les études classiques en interne. Il fallait s'adresser à l'opinion et faire en sorte que la Grèce classique soit présente dans la culture de notre temps, qui pense pouvoir, et surtout devoir, se passer de grec et de latin. » Jacqueline Remy s'inscrit en faux contre l'idée que l'apprentissage des langues anciennes se fait au détriment des langues modernes. Elle nous dit que ses connaissances du grec et du latin ne l'ont pas empêchée de publier 4 livres aux États-Unis qu'elle a écrits directement en anglais. Elle a souvent enseigné en anglais et exigé de ses étudiants la connaissance de l'anglais et de l'allemand, indispensable, indique-t-elle, pour des recherches sur l'Antiquité. « Je crois vraiment, insiste-t-elle, que l'apprentissage des langues vivantes s'accorde parfaitement avec une culture classique. » Jacqueline Remy est consciente que, et je cite, « dans une période de fort chômage que connaît notre société, il y a le désir tout à fait légitime de faire des études qui apportent directement des débouchés. Or, reconnaît-elle, les études classiques de la et la formation aux langues anciennes ne rapportent rien de façon directe. C'est là la difficulté et en même temps l'explication de la situation actuelle. Mais, poursuit-elle, parce qu'on ne réfléchit pas assez à ce qu'est l'éducation, on ne se rend pas compte que les détours, faire du grec et du latin, est formateur et que même pour l'exercice futur d'une profession, pour la réussite d'une carrière, le fait d'apprendre bien sa langue, de savoir s'exprimer, d'avoir à sa disposition des modèles d'idées de raisonnement, constitue une force et un atout considérable. En 1992, Jacqueline Remy crée, avec quelques collègues, dont Marc Fumaroli, l'Association Sauvegarde des enseignements littéraires, une association qu'elle qualifie elle-même de formation de combat et d'initiative, d'intervention, voire de pression. Pendant de nombreuses années, Jacqueline Remy s'engage en effet dans ce combat avec la pugnacité que ses amis admirent en elle. L'objectif général poursuivi est de redonner, nous dit-elle, d'une part aux filières scientifiques du secondaire un contenu littéraire significatif et de restaurer d'autre part une filière littéraire forte comprenant langues anciennes et enseignement scientifique. J'aimerais m'associer ici avec conviction à la position qu'a défendue Jacqueline Remy. Un enseignement classique ne doit certes pas conduire tous les jeunes à lire Thucydide dans le texte, mais doit leur permettre de maintenir les liens intellectuels et moraux avec ces grandes civilisations qui nous ont montré la voie et sur les interrogations et acquis desquelles nous avons bâti en grande partie notre progrès. Dans son argumentaire pour la défense des études classiques, Jacqueline Remy regrette la préoccupation exclusive de ce qui est utile et rentable à court terme. En exprimant là encore mon profond accord personnel avec cette position, j'aimerais l'étendre au contexte de la recherche scientifique, qui est souvent guettée par la même préoccupation du court terme. Je suis admiratif devant les progrès de la recherche scientifique appliquée, mais je plaide fortement pour le maintien dans notre société d'une recherche scientifique fondamentale mue par la seule curiosité. L'histoire des sciences est constellée de découvertes importantes obtenues à partir de questionnements purement intellectuels. Ironie de cette histoire, la plupart de ces découvertes ont mené à des applications importantes qui n'étaient a priori ni prévues ni même prévisibles. Une société dans laquelle la recherche scientifique fondamentale, mue par la seule curiosité intellectuelle, ne serait plus soutenue, perdrait son âme, tout comme une société qui ne donnerait plus à sa jeunesse un large accès aux langues et à la littérature classique. L'amour du grec et l'amour de l'enseignement ont été les grands moteurs de l'activité intellectuelle et humaine de Jacqueline Remy. Mais il y a un autre aspect qu'elle nous révèle dans l'un de ses livres où elle nous dit « J'aime passionnément comprendre le plus possible de tout, toujours. » Je retrouve ce sentiment, poursuit-elle, intense et fécond, à la source de toutes les œuvres grecques. Il m'enchante il me stimule. Et je crois bien qu'il est contagieux. Ainsi, à propos de Thucydide, elle pose la question « Qu'a-t-il jamais fait d'autre que de chercher à comprendre ?» Comprendre les causes de la guerre du Péloponnèse, les causes profondes, les causes occasionnelles, les causes avouées, les causes secrètes. Il cherche à comprendre la cause des causes. Et à la même époque où Thucydide cherchait à comprendre les causes de la maladie de l'État, Hippocrate cherchait à comprendre celles des maladies du corps. Il en était de même des nombreux savants grecs, bien connus de l'époque, qui ont cherché à comprendre dans tous les domaines. Toujours dans le contexte de comprendre, je voudrais faire un clin d'œil admiratif à Thucydide pour un passage dans son récit de la guerre du Péloponnèse, passage auquel m'a rendu attentif récemment mon ami Michel Fougereau de Marseille. En effet, pendant les premières années de la guerre du Péloponnèse, la peste s'était déclarée à Athènes. Thucydide en était affecté lui-même et en fit une description terrible. Il indique que toute science humaine était inefficace. En vain on multipliait les supplications dans les temples. En vain on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Tout était inutile et finalement on y renonça, vaincu par le fléau. Mais quelques lignes plus loin, Thucydide note « Ceux qui avaient échappé à la maladie se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades, car, connaissant déjà le mal, ils étaient en sécurité, les rechutes n'étaient pas mortelles. » Eh bien, avec un grand respect pour Thucydide, nous pouvons dire aujourd'hui que ce texte est en quelque sorte un acte fondateur de l'immunologie, domaine dont je me sens proche. Il a malheureusement fallu à l'homme plus de 20 siècles pour comprendre les mécanismes qui sont responsables de ce que Thucydide appelait la résistance de ceux qui avaient échappé à la maladie et qui se trouvaient ainsi protégés. Aujourd'hui, ces mécanismes sont bien connus et la médecine y fait largement appel, notamment pour les vaccinations, sauvant des dizaines et des dizaines de millions d'hommes tous les ans. Le désir, le besoin de comprendre est un lien entre toutes les disciplines réunies dans cet institut. Et c'est le primum movens de la recherche littéraire comme de la recherche scientifique. Culture et science, nous en sommes tous conscients ici, sont inséparables et non seulement se complètent, mais se fertilisent mutuellement. À partir de l'âge de 84 ans, Jacqueline de Romilly perd progressivement sa vue. Elle fait alors preuve d'un courage remarquable pour surmonter un événement qui aurait pu l'anéantir dans une activité intellectuelle comme la sienne. Elle réussit à maintenir, entourée de quelques personnes motivées et dévouées, un rythme de publication soutenu. En effet, sur les quelques 60 ouvrages que Jacqueline de Romilly a publiés, un tiers l'ont été pendant ces années. C'est à cette époque qu'elle se penche davantage sur les méandres de la personnalité humaine, par petites touches précises, sous la forme de fraîches et courtes nouvelles, intimistes souvent, au titre chanteur, tel « Le trésor des savoirs oubliés », « Laisse flotter le ruban », « Soudé d'or si calme », « Les roses de la solitude » ou encore « Le sourire innombrable ». Au travers d'éléments souvent autobiographiques qu'elle met en scène, elle s'attache à débusquer les petits bonheurs quotidiens, la beauté, la gaieté, la sensualité ou encore la tendresse qui se cachent là où on ne les attend pas. Elle dévoile aussi des recoins parfois sombres de la psychologie de personnages qu'elle choisit d'animer dans de courtes histoires, dont certaines se situent autour de la montagne Sainte-Victoire qu'elle a tant aimée. C'est du petit volume, Soudé d'or si calme, paru en 2002, que je voudrais extraire une citation qui m'a beaucoup touché. Ce volume se termine par un chapitre intitulé « J'y vois encore », dans lequel Jacqueline de Romilly décrit les réflexions d'une personne âgée qui est en train de perdre la vue. Elle fait dire ces phrases à cette personne qui ne peuvent que refléter ses propres expériences. Je cite « Ce que je tiens pour un miracle, c'est que, en y voyant encore, je découvre des merveilles que nul ne peut soupçonner. Les choses autour de moi s'enveloppent de flou. Elles deviennent distantes, se fondent dans une harmonie qui aussitôt me bouleverse. Les choses n'ont plus la précision blessante qu'elles ont pour un regard normal et à laquelle j'étais habitué. Elles s'éloignent, s'atténuent, s'adoucissent. Un léger frémissement fait se rapprocher et se mêler les couleurs et leur confère par là une sorte d'irréalité qui n'est accordée qu'à moi. Le flou de ma vision renforce ces sensations diverses. Je me sens soulevée, prise, comprise et aussi tellement sereine. J'en arrive à la fin de mon exposé. Pénétrer dans l'univers de Jacqueline Romy, même tardivement, a été pour moi un privilège et un réel bonheur. J'ai compris au fil de mes lectures la signification qu'elle mettait dans ces mots qui reviennent si souvent dans ces magnifiques textes. Douceur, liberté, espérance, beauté, émerveillement, sens civique, respect des valeurs immuables, gaieté. Pour lui emprunter une expression qu'elle utilise souvent à propos des Grecs, je dirais de l'œuvre de Jacqueline Romy qu'elle rejoint l'universel. Mais c'est à Jacqueline Romy que je réserve la dernière phrase de mon exposé. Je la cite. « Ces textes grecs, je puis le dire, je les ai aimés. Ils m'ont tenu compagnie et m'ont vraiment éclairé quotidiennement mon existence. Je leur suis reconnaissante. Et je voudrais que chacun, notamment les jeunes, puisse les découvrir et recevoir d'eux tout ce qu'ils ont à donner. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait d'abord dans ce but-là. »
Monsieur, il m'est confié l'insigne honneur de vous recevoir et voyez-moi flatté autant qu'inquiet. À lire l'étonnant palmarès qui accompagne votre vie scientifique, il me revient la délicate responsabilité d'en traduire et les raisons et les œuvres. Le prix Nobel qui la couronne, me portant, comme le disait notre confrère Maurice Schumann, accueillant le 20 novembre 1997 sous cette coupole François Jacob, prix Nobel de physiologie ou de médecine comme vous-même, a pensé que cette immense distinction confère à notre compagnie autant de curiosité que d'impatience à vous y accueillir. Un rappel historique en vérité, dont il se pourrait que vous trouviez comme moi qu'il n'est pas indifférent à notre destin. La relation entre ces deux grands hommes était en effet fort singulière, car les cérémonies qui les réunissaient en ce jour de novembre n'étaient imaginables par aucun des deux, alors qu'ils décidaient de rejoindre 57 ans plus tôt Londres et le général de Gaulle. Et ce d'autant plus que, ne se connaissant pas, ils se retrouvaient ce 20 juin 1940, étrange coïncidence, sur le même paquebot polonais les ayant recueillis au large de Saint-Jean-de-Luz. Forts de leur jeunesse et de leur décision de poursuivre le combat. Un combat qu'ils menèrent et l'un et l'autre au risque de leur vie et dont je voudrais qu'en ce jour solennel nous leur rendions hommage. Alain, Maurice Schumann, l'ami qui nous quitta en 1998, et à l'autre, notre illustre confrère François Jacob, dont je me réjouissais il y a peu de jours encore qu'il soit toujours parmi nous, sachant que dans d'autres circonstances, il eût tenu à ma place et avec quel talent le rôle que j'ai présentement. Le destin, en ce 20 avril dernier, en décida autrement et ne nous laisse que la triste occasion de le pleurer. Sans toutefois oublier que la décision que tous deux prirent ensemble de combattre nous valurent, à vous, monsieur, et à moi-même, de nous retrouver 70 ans plus tard en le même lieu et dans les mêmes rôles, ce qui eût pu, sans eux, ne pas être. Vous êtes né, monsieur, le 2 août 1941. Le monde est alors en feu, l'Europe vit à l'heure allemande, et depuis 2 mois, en Russie, les armées du Reich semblent invincibles. Il faudra 4 années pour que revienne la paix, mais nos villages de naissance, le vôtre, Echenach, dans le Grand-Duché du Luxembourg, et le mien, Mortain, en Normandie, seront en ruine. En ruine, mais libérés, et j'aurai la joie d'y voir, du haut de mes 13 ans, y défiler 4 mois avant vous, l'immense cohorte des blindés du général Patton, dont vous me disiez qu'en vos 3 ans, elle était l'un de vos premiers grands souvenirs. En ces premières années de votre vie, votre famille n'est pas épargnée. Le Luxembourg est passé dès juillet 1940 sous administration allemande, celle qui prévoit l'annexion du territoire et la germanisation de sa population. L'usage du français y est interdit. Vos parents vivent ainsi les toutes premières années de leur mariage sous la pression d'une propagande qui tente vainement de rallier la population luxembourgeoise au régime nazi. Votre père est alors jeune professeur de zoologie et de botanique au lycée d'Echternach, position relativement supportable s'il intervenait en 1942 une décision de l'occupant qui allait bouleverser sa vie et celle de votre famille, celle qui allait imposer au mépris de l'indépendance du Luxembourg l'intégration des jeunes hommes dans la Wehrmacht et leur engagement dans la guerre à l'image de ce qui fut décidé pour les Lorrains et les Alsaciens. Une grève générale paralyse alors le pays. Les autorités allemandes réagissent en décrétant la loi martiale. Ils arrêtent, ils fusillent, ils déportent. Votre père, lui-même gréviste, est arrêté. Il lui sera imposé, en vertu de cette politique d'assimilation de l'occupant, l'obligation d'enseigner dans un lycée allemand à Wuppertal, en Westphalie. Jusqu'en l'été 1944, à la fin duquel il pourra rejoindre sa famille, quelques semaines seulement avant que les troupes alliées ne libèrent le Luxembourg. Qui n'en serait alors heureux ? Echenart garde malgré l'occupation ses charmes d'antan et l'assure. Jolie rivière qui y serpente redevient la frontière qui la sépare de l'Allemagne, celle que l'on voulut si radicalement effacer. Sa célèbre abbaye bénédictine, autour de laquelle tant de fameuses processions se sont déroulées depuis la mort au 8e siècle de son moine fondateur, Sainte Willibrorde, élève encore avec fierté ses nobles ruines. Certes, nombre de ses enfants, incorporés de force dans la Wehrmacht, ne reviendront pas, mais l'avance des Alliés laisse espérer une fin prochaine à cette trop longue guerre. On s'apprête à fêter Noël dans la joie lorsque von Rundstedt lance la bataille des Ardennes, cette ultime tentative de l'état-major allemand, dont les conséquences seront fatales à Echternach, engloutissant sous ses ruines ses maisons et les restes de sa belle abbaye. Vos jeunes années vous feront témoin de sa lente résurrection. Ce sont celles dont vous garderez aussi une fidèle et chère mémoire. Non pas qu'elles furent faciles. Vous vous souvenez de la stricte règle qui présidait à votre éducation en ce Luxembourg, libérée certes, mais aux rudes traditions retrouvées. De ces 15 années qui suivent la fin de la guerre, vous garderez toutefois l'idée qu'elles furent heureuses. J'y vois dans cet aveu les marques d'un élève curieux de tout et pour lequel l'enseignement est un plaisir. En langue, n'êtes-vous pas remarquable ? 7 années d'études du latin vous permettent de le lire dans le texte, de le parler même avec aisance avec de jeunes prêtres rencontrés au Vatican. Prélude à l'aisance que vous aurez à quitter l'usage de votre bon dialecte luxembourgeois, devenu officiellement et fièrement depuis langue européenne, pour le français, l'allemand ou l'anglais. Vous seriez plutôt attiré par les lettres, par l'histoire, la culture de la Grèce antique, et vous restez distant des mathématiques et de la physique, sans toutefois que celles-ci vous indisposent. Vous avez quitté très tôt Echternach, car votre père fut nommé dès la fin de la guerre, professeur en un lycée réputé de la ville de Luxembourg, et vous y avez accompli la plus grande partie de vos études. Sous le contrôle de ce père que vous admirez et dont vous ne niez pas la grande influence qu'il eut alors sur vous. Votre père est né d'une famille de modestes fermiers de la campagne luxembourgeoise. Il fit ses études secondaires au Luxembourg et poursuivit ses études universitaires en zoologie et en botanique à Paris et à Bruxelles. Votre mère est fille de commerçants aisés d'Echternach, volontaire et travailleur. Il s'était marié peu de temps après la déclaration de la guerre. 1 an plus tard, vous naissiez et ils vous donnèrent un frère en 1945, Jean-Paul. Vous êtes profondément attaché à votre famille, à vos ancêtres, à leur terre de naissance, celle où vous aimerez vous rendre chaque été. Vous partagez avec eux leur goût de la nature. Avec votre père, qui était un adroit pêcheur de truites, vous vous essayez à l'imiter dans la petite rivière, la Heich, qui borde la ferme familiale des Hoffmann. Vous y écouterez vos oncles vous raconter leur campagne de Russie, celles dont ils sont heureusement revenus et qui vous font partager l'admiration qu'ils portent à ces Russes qu'ils combattaient, mais dont ils se sentaient pourtant si solidaires. Vous rêvez alors de terres lointaines, de Vitebsk, de Smolensk, tout comme vous rêvez avec les pères blancs qui habitent un monastère très proche, du Rwanda, du Kandanika, ces pays qu'ils fréquentent et où sévit la malaria, dont sont responsables ces terribles moustiques que connaît si bien votre père. Car votre père, qui enseigne la zoologie, s'est pris de passion pour l'entomologie, cette partie de cette discipline qui concerne les insectes. L'entomologie est coutumière de cet engouement que certains portent à ces petits invertébrés qui pullulent autour de nous, à la manière de ce que nous en rapporte Jean-Henri Fabre dans ses souvenirs entomologiques, à celle de Ernst Jünger, qui, étudiant la zoologie à Leipzig, s'était épris des longicornes et des scarabées au point qu'il mêla fréquemment leur aventure à la sienne propre dans son journal de guerre. Combien il lui était alors agréable de goûter, dit-il, toute l'expression vivante de leur monde, le nôtre étant par ailleurs ravagé, au voisinage d'une petite dune, d'un petit ruisseau, microcosme dont l'enseignement était à ses yeux intarissable. N'allait-il pas jusqu'à prétendre avec bonheur que la Cincidella et la Gregarina, étant devenues Jüngeri, porteraient ainsi son nom au-delà de sa propre mort? Une passion que votre père partage et qu'il va vous inculquer, qui sera l'un des grands acquis de votre jeunesse. Avec lui, vous allez parcourir la campagne en quête de ces petits êtres vivants qui foisonnent autour des sources, des mares, des rivières, en ce Müllerthal, riche de ces moulins animés de leur eau vive, et vous surprendre à partager ce goût qu'il a de les reconnaître, de les classer et d'entrevoir leur rôle dans notre environnement. Bien différent, il est vrai, de celui que leur prêtait André Gide, qui prétendait étrangement que l'entomologie était capable, selon lui, de proposer aux hommes les plus beaux sujets de drame qu'ils puissent imaginer. Des centaines d'observations seront recueillies par votre père, qui le conduiront à publier à l'Institut des sciences du Luxembourg des monographies remarquées, et vous-même. Avec son aide, n'avez-vous pas publié, à 17 ans, votre premier article scientifique dévoilant les caprices de la puce d'eau qui fut votre premier modèle? Vous perceviez déjà que ce monde des insectes, représentant le plus important groupe de la faune terrestre, offrait à celui qui voulait s'y intéresser un champ infini d'études. Un monde composé de 2 millions d'espèces décrites, représentant 90% des espèces animales, entretenant avec l'homme de terribles relations, se traduisant pour un tiers d'entre eux par la transmission de maladies graves et pour leur agriculture par la disparition d'un tiers de leur récolte. Un intérêt passionné pour cette faune qui ne fut pas toujours compris ou partagé. En contradiction d'ailleurs avec votre grand ancêtre et doublement confrère, Buffon, dont on rapporte qu'il reprochait à Réaumur, à l'Académie des sciences, de porter trop d'attention au modèle des insectes et affirmait qu'une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature, et se moquer de l'abbé Pluche, pour lequel la seule tête d'une mouche était pleine de bouquets et de diamants. Mais Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, préparait son entrée au muséum et saurait, lui, le botaniste, s'attacher à l'histoire de ces animaux sans vertèbres et donner à l'entomologie ses lettres de noblesse. Quant aux yeux de la mouche que l'abbé Pluche, avec prémonition, comparait à des diamants, Thomas Morgan saura en faire dans une variété que vous apprécierez, monsieur, la drosophile, cette mouche dite du vinaigre, ou plus poétiquement et étymologiquement mouche de la rosée, l'objet de ses études sur l'hérédité, précurseur en somme de toutes celles qui nous apprirent sur elle, comme vous-même, une grande part de ce que nous sommes. ne partage-t-elle pas d'ailleurs 60% de notre génome et par là même avec nous une étonnante intimité? Ne savons-nous pas que 75% des gènes humains récemment impliqués dans nos pathologies ont des homologues chez ce fragile insecte? Revenons au jeune homme que vous étiez. Au travers de l'entomologie, il vous était filialement agréable de partager avec votre père une même attirance et de soupçonner en lui le souhait que vous en deveniez son double prometteur. Car vos études secondaires s'achevaient avec un excellent score en langue et en sciences et se posaient désormais la question de votre orientation. Je soupçonne qu'existait déjà en vous un véritable penchant pour la recherche. C'est une vocation que cultivent très tôt ceux que la vie étonne, à la manière d'une mission appliquée à la découverte, par la preuve, des vérités fondamentales de notre monde. Un monde dont l'étonnante diversité portait l'adolescent que vous étiez à l'admirer, mais surtout à tenter de le comprendre. Un choix aussi parmi les voies susceptibles d'apporter les réponses aux questions que l'on se pose, alors qu'on est jeune poète autant que jeune savant. Au moment même où vous posiez ces questions, Saint John Perse, au City Hall de Stockholm, en ce 10 décembre 1960, dans son discours du banquet du Nobel, tentait d'y apporter une réponse. Il aurait pu, si vous en aviez eu connaissance, vous rassurer en affirmant que l'on peut concilier le goût des lettres, vers lequel il me semble que vous penchiez, et celui de la science qui finalement vous séduira. N'y disait-il pas? Toute création de l'esprit est d'abord poétique, au sens propre du mot, et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant ou pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus loin et de plus loin. Et de cette nuit où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences. La réponse n'importe, le mystère est commun. Votre père avait opté pour la science, laquelle s'accordait du charme de la nature, celle où il aimait vivre, qu'il admirait, qu'il inventoriait. Il y avait du savant, lui aussi du poète. Il vous a paru donc que suivre son exemple était à la fois le plus conforme à ce qu'il désirait que vous soyez et le plus adapté aux difficultés que ces années d'après-guerre nous imposaient encore. Il n'y avait pas d'université au Luxembourg. Celle de Strasbourg avait l'avantage d'être proche de votre domicile et de vous offrir la possibilité d'obtenir votre qualification en biologie générale, zoologie et botanique. Après quoi, il était convenu avec vos parents que vous seriez, à l'image de votre père, professeur de lycée au Luxembourg. Vous quittez votre famille en octobre 1961, vous avez 20 ans. De cette France qui vous accueille, vous en ignorez presque tout. Et vous ne pouvez imaginer alors toutes les surprises qu'elle vous réserve. Cela commence plutôt médiocrement. Vous êtes quelque peu désappointé par le classicisme de l'enseignement biologique qui vous est proposé. Vous attendiez davantage, mais au cours de la deuxième année, vous rencontrez M. Pierre Joly, qui dirige un groupe de recherche sur la régulation endocrine du développement et de la reproduction des criquets migrateurs. Recherche motivée par les désastres que ces nuées de criquets provoquent sur les cultures de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Pendant l'été 1963, il vous propose une place dans son laboratoire, une chance réelle, d'autant plus que l'année suivante, il vous réserve un stage dans le cadre du CNRS. Il accepte de surcroît de diriger votre thèse de science, une thèse sur les insectes précisément. On douterait du contraire. Car son laboratoire de l'Institut de zoologie est le seul groupe développant des recherches expérimentales qui leur soit consacré à Strasbourg. Il choisit pour vous un sujet dont nul ne sait, ni lui ni vous, qu'il déterminera l'orientation de votre vie entière. Il vous propose d'étudier les défenses antimicrobiennes de ces mêmes criquets. Une idée issue d'une remarque que lui ont suggéré ses travaux. L'étrange et inattendue absence d'infection microbienne chez ces insectes auxquels on impose des transplantations d'organes endocrines ou des manipulations sans aucune précaution antiseptique. Une absence si constante, si contraire à ce que l'on observe chez les vertébrés, qu'elle intrigue fortement et dont on aimerait comprendre les raisons. Pour votre maître, cela ne se peut que par l'existence chez ces insectes d'un système de défense contre les microbes d'une rare efficacité, mais qui reste à découvrir. Nous pouvons imaginer la fierté qui s'empara de vous devant une telle proposition, mais nous pouvons aussi supposer que le professeur Joly ne l'avait pas faite au hasard. Il avait déjà saisi chez vous, comme tout vrai maître en est capable, ces qualités qui feront de vous un collaborateur, un promoteur de ses actions. Un placement majeur en vérité, il ne sera pas déçu. Ce serait un bonheur sans nuage si cette merveilleuse incitation à la recherche n'alarmait vos parents. Votre père ne comprend pas qu'on ait besoin d'une thèse de science pour devenir professeur au Luxembourg et pense que s'engager ainsi pour plusieurs années n'est guère sérieux et à l'encontre de ce qui était prévu. C'est une décision qui contrarie douloureusement vos parents et vous éprouve grandement. Un compromis se dessinera cependant. Vos parents finissant par accepter l'idée de cette thèse, à la condition toutefois qu'après sa soutenance, vous reveniez enseigner au Luxembourg. Vous en étiez alors moins certain qu'eux-mêmes, et cette nécessité de leur laisser penser créa en vous un certain malaise dont l'évocation vous trouble encore. Pour vous, c'est en vérité le départ d'une grande aventure, celle que les chercheurs en biologie connaissent bien, celles qui les portent aux confins des mystères de la vie, celles qui font d'eux les explorateurs de territoires jusqu'alors vierges au prix de difficultés, qui portent en elles-mêmes les raisons de vouloir les vaincre. Vous vous engagez totalement, avec la foi d'un jeune chercheur de ces années 60, disposant de peu de moyens et n'ayant pour principal champ d'action que l'histologie, à laquelle l'adjonction récente de la microscopie électronique confierait pendant quelques années, le rôle principal conférerait pendant quelques années le rôle capital qu'elle eut en biologie expérimentale. De l'observation de ce monde microscopique, à une échelle jusque-là inconnue, se déduirait une part des questions auxquelles la biologie moléculaire, qui prend alors son essor, apportera des réponses. Il n'est pas de chercheur ici présent qui n'est de leur jeune pratique un magnifique souvenir. Votre directeur de thèse guide vos premiers pas. Vous relisez tout ce qui a été publié sur cette originale défense que les insectes opposent aux microbes et qui intrigue tant. Peu de choses en émergent, sinon les précisions apportées par Elie Metchnikoff, lui-même prix Nobel en 1908, sur la phagocytose, cette capacité pour une cellule d'englober une bactérie puis de la détruire. Une capacité qu'il décèle chez ce petit crustacé d'eau douce, la daphnie, lui faisant proposer par là même un modèle d'immunité cellulaire. Vos premières recherches vous engagent à poser l'hypothèse que cette phagocytose pourrait être, dans leur défense antimicrobienne, l'arme essentielle de ces criquets. C'est ce que confirmeront vos premières manipulations. Celles-ci provoquent, vous le notez, une grande production de cellules douées de phagocytose. Seuls des arguments indirects vous conduisent alors à penser que leur accumulation pourrait traduire les effets de cette protection. Mais on ignorait presque tout de la formation de ces cellules et par extension du sang chez ces insectes. C'est alors que, fort de ces acquis, est parvenu au milieu de votre thèse, le professeur Joly vous conseille de prendre contact avec l'un de ses amis, le professeur André Porte, remarquable anatomopathologiste de la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg. Est-il exagéré de dire qu'il fut pour vous, au-delà d'un maître, le véritable révélateur de votre vocation? Il vous confie avoir tardivement découvert la sienne. Elle fit de lui, dites-vous, celui qui vous ouvrit les yeux autant sur la vie que sur la science. Vous en resterez marqué. C'est avec son aide que vous découvrirez l'origine de ces phagocytes, ces acteurs supposés de la résistance des insectes à l'infection. C'est un tissu situé au voisinage du vaisseau dorsal de l'abdomen des criquets, larve ou adulte. Encore fallait-il en démontrer le véritable rôle. En étudiant les effets de sa suppression, par exemple, ce que vous entreprenez de faire en soumettant ce tissu à l'effet des rayons X. La réponse obtenue est très claire. Les insectes ainsi traités se révèlent incapables de résister à la septicémie mortelle provoquée par la classique agression microbienne. Les témoins non irradiés gardant au contraire cette naturelle propriété. Cette expérience capitale confirmait la validité de l'hypothèse que vous aviez posée, à savoir le rôle crucial de la production massive des phagocytes par le tissu que vous aviez mis en évidence et la place que celui-ci tenait dans la défense antimicrobienne de vos criquets. En ce moment de mon discours, j'aimerais préciser que mon intention n'est pas de poursuivre, monsieur, d'un seul trait les étapes de votre démarche scientifique, on s'en effraierait peut-être, mais d'insister sur le rôle fondamental que ce constat aura sur votre avenir. Aux questions que vous étiez posées, vous apportiez une réponse claire relativement à la résistance à l'infection, mais plus encore une surprise, l'arrêt collatéral par les rayons X du contrôle endocrinien de la mue de cet insecte que vous traitiez. Une réponse qui démontrait que l'intérêt récent du laboratoire pour les réactions à l'infection microbienne des insectes, projet marginal par rapport au premier concernant l'endocrinologie, venait singulièrement renforcer les connaissances relatives au contrôle de la mue et du développement des criquets. Il en résultera que deux secteurs de recherche marqueraient désormais l'évolution du laboratoire du professeur Joly, l'un consacré à l'hormone de la mutation, l'autre à l'immunologie du criquet, mais nous verrons qu'ils conserveront longtemps de passionnantes correspondances. En ces temps d'intense activité, vous n'avez pas été sans remarquer, je le devine, la présence d'une jeune technicienne de laboratoire, Danielle Hirzel, strasbourgeoise, dont vous ne soupçonniez peut-être pas encore qu'elle tiendrait un très grand rôle dans votre existence. Elle deviendra en effet votre épouse en 1968, sera la mère de Marc et d'Isabelle, mais en même temps votre précieuse collaboratrice. À peine mariée, en effet, elle reprendra ses études universitaires et je veux penser que vous ne fûtes pas totalement étranger à cette décision afin qu'elle vous rejoigne dûment diplômée en biochimie et en biologie. En 1973, elle retrouve le laboratoire du professeur Joly et prépare une thèse sur votre propre thème, les défenses antibactériennes des criquets. Vous deviendrez vous-même, au départ du professeur Joly, son directeur de thèse. En ce qui vous concerne, l'inhibition de la mue que vous avez observée sur le criquet à la suite de vos expériences va influencer durablement l'orientation de vos travaux. Votre maître connaît personnellement le professeur Carlson, qui venait d'isoler et d'identifier en Allemagne l'hormone stéroïde responsable précisément de la mue de ces insectes, l'ecdysone. En 1972, il vous engage à le rejoindre à Marbourg pour 2 ans, 2 années pendant lesquelles vous apprécierez l'extraordinaire atmosphère scientifique du laboratoire de Peter Carlson. Son érudition héritée de son maître et prix Nobel, Adolf Butenandt, vous y découvrez l'intérêt de techniques que vous ne pratiquiez pas à Strasbourg. Avec Jan Kuhlmann, son collaborateur, vous allez vous attacher à préciser la biosynthèse et le métabolisme de cette hormone ecdysone dont vous posséderez bientôt une forme radioactive prometteuse. Par l'intermédiaire de Peter Carlson, vous rencontrerez de nombreux collègues allemands qui vous associeront très librement à leurs projets scientifiques, ce dont vous leur serez très reconnaissant. Sensible à cet accueil, vous n'êtes pas moins à l'expression d'un romantisme allemand dont vous avouez qu'il a fortement orienté vos inclinations culturelles. Un séjour fort édifiant que vous entrecoupez de brefs retours à Strasbourg. De cette intime collaboration, vous déduisez qu'elle s'impose désormais comme seule voie de progrès, autant par la qualité des échanges intellectuels qu'elle propose que par l'accès à des techniques, à des méthodes qu'il convient de posséder ou de partager. De retour à Strasbourg, vous avez en tête de grands projets, mais peut-être aussi l'inquiétude qu'entretient en vous le départ à la retraite prévu en 1978 de votre maître, le professeur Joly. Nous savons que c'est en France et sans doute ailleurs aussi une période très difficile pour un laboratoire. On se penche sur le passé de celui-ci, sur les motifs de ses travaux, sur son activité, sur sa rentabilité. Certains même rêvent de le fermer et d'en modifier la destination scientifique. En ce qui concerne celui du professeur Joly, des rumeurs vous portent à douter de son avenir, et par là, du vôtre et des 20 chercheurs qui y travaillent. On s'interroge, en bon disciple de Buffon, sur l'intérêt de poursuivre des travaux sur les insectes alors qu'on rêve, est-ce croyable, d'en interrompre le cours et de fonder un département d'écologie. Nous avons tous connu ces temps préoccupants qui menacent l'entreprise que nous avons fondée. Ce combat qui s'engage, vous le gagnerez cependant. Vous plaidez la cause des insectes auprès du professeur Pierre Carli, président de votre université, et auprès du professeur André Berkaloff, directeur du département des sciences de la vie au CNRS. Ils vous écouteront et vous confieront la direction du laboratoire dit de biologie générale pour l'université et d'endocrinologie et immunologie des insectes pour le CNRS. Il vous est enfin possible de reprendre le cours de vos travaux. À vrai dire, vous allez y reprendre les thèmes de votre thèse, mais avec un environnement nouveau et l'atout pour votre équipe des relations que vous avez nouées avec vos collègues allemands et rapidement bien d'autres. Avec tous ceux qui partageront les voies de plus en plus étroites de vos recherches, le fil de vos hypothèses, l'évolution des techniques, le savoir des autres, le don du vôtre à ceux-là et l'enthousiasme qui porte des équipes travaillant ensemble à se sentir plus proches du but fixé. C'est ainsi que se compose en vérité l'œuvre d'un savant. François Jacob, dans son discours de remerciement, s'interrogeait lui-même sur la nature de l'œuvre d'un scientifique, sur sa particularité et sur sa récompense. Un écrivain, un artiste, disait-il, s'adressant à ses confrères qui le recevaient, peut se prévaloir d'une œuvre qui lui appartient en propre. À cette œuvre qu'il a lui-même entièrement créée, il peut donc, à bon droit, attribuer votre faveur. Il en va tout autrement d'un scientifique. Celui-là ne fait que poursuivre une entreprise née des efforts accumulés des générations précédentes. Il ajoutait, et vous disant ici ma gratitude, je suis conscient de n'être qu'un maillon dans une longue chaîne de chercheurs. Il évoquait alors la solidarité si singulière qui les unit, au-delà même du souci de compétition qui les anime. De nos jours, l'accélération prodigieuse des connaissances scientifiques, leur diffusion instantanée, les réponses qu'elles apportent, remettent en cause en permanence les voies initialement tracées, lesquelles bénéficient sans cesse des ajouts des autres, d'où qu'ils soient, dès lors qu'ils partagent les mêmes enjeux. Ce n'est pas la moindre des qualités du monde scientifique que cette permanente nécessité de revoir et de remanier son écriture. Cela, monsieur, vous aimiez, avec une grande modestie, le souligner avant même que ne se dessine pour vous un nouveau et grand départ. Directeur de votre groupe de recherche, vous resterez fidèle aux deux sujets développés dans le laboratoire du professeur Joly, et nous le savons fortement inspiré des résultats exprimés dans votre thèse. À vos collaborateurs, Marie Le Gueux et Charles Etru, vous confiez l'étude de la biosynthèse de l'ecdysone de Carlson et de son rôle dans la reproduction et le développement des criquets. Vous poursuivrez, quant à vous, l'étude des défenses antimicrobiennes des insectes dans le souci d'identifier la nature des molécules responsables de cette résistance. Plusieurs circonstances heureuses, comme il en existe en recherche, qui peuvent paraître liées au hasard, mais qui pour la plupart sont intuitives, vont vous rapprocher du professeur Baumann de Stockholm. Il a découvert dans la chrysalide infectée d'un papillon, dû au joli nom d'Hyalophora, un peptide antimicrobien. Un peptide est un assemblage d'acides aminés, dénommé sécropine. Or, vous connaissiez bien ce collègue qui fut l'un des membres du jury de thèse de Danielle, votre épouse. Partager son savoir sur ce peptide antimicrobien devient à vos yeux un enjeu majeur. Danielle sera votre messager en son laboratoire. Elle va non seulement se familiariser avec ce peptide antimicrobien déjà identifié par le professeur Baumann, mais avec Dan Hultmark, un collaborateur de celui-ci, confirmer l'existence dans la chenille d'un autre papillon dénommé Galeria, une cécropine homologue de celle d'Aliophora. Une découverte qui tente à démontrer la présence, au moins chez le papillon, d'un peptide antimicrobien que pourrait partager le criquet, doté de la même capacité de résister à l'agression microbienne. C'est ce qu'à son retour à Strasbourg, votre épouse, riche des techniques acquises à Stockholm, va tenter de démontrer. À votre grande déception et sans succès. Il est ainsi sur le chemin des chercheurs de grands désappointements. Une large voie était ouverte qu'une pensée logique entretenait et que le doute referme. Cependant, si le criquet ne livre pas son peptide antimicrobien, une certitude demeure. Celui-ci existe chez d'autres insectes. Une certitude qui vous impose le choix d'un autre modèle d'insecte et d'autant plus que ce fameux criquet avait fini par se lasser de l'intérêt que lui portait votre épouse en développant chez elle une allergie à ses ailes fort déplaisantes et dissuasives. Un échec et un obstacle technique déroutant, mais en réalité source de nouvelles orientations, vers les diptères, les mouches, avec l'arrière-pensée d'emprunter rapidement le modèle de la drosophile, avec la perspective fascinante de pouvoir profiter de son modèle génétique, lequel se prête utilement à des mutations programmées. Projet ambitieux, certes, mais que les moyens du laboratoire permettent d'entrevoir, car accru désormais de compétences en biochimie, en chimie, avec l'aide de vos collègues, le professeur Guy Ourisson et le docteur Lubanque de Strasbourg, mais aussi en biologie moléculaire avec celle de votre ami, le professeur Pierre Chambon. C'est qu'entre-temps, vous avez réussi à réunir autour de vous une équipe très performante de chercheurs en biologie cellulaire, en biochimie, en chimie analytique, puis en biologie et génétique moléculaire. La drosophile, la toute petite mouche du vinaigre, nous la retrouvons donc avec votre équipe sur votre route. L'abbé Pluche s'en réjouirait. Elle vous offrira bientôt bouquets et diamants, mais au prix d'un travail considérable. Pour identifier les molécules actives que vous recherchez, il vous faudra piquer et infecter près de 100 000 mouches. Travail dont vous entrevoyez déjà, s'il est concluant, tous les développements que la biologie moléculaire et la capacité d'induire chez cette mouche des mutations criblées pourraient apporter. Mais est-on en recherche scientifique toujours capable d'orienter librement ses travaux ? Ce l'était sans doute en mon temps, mais ce ne l'est plus de nos jours avec la même évidence. C'est alors que votre haute direction scientifique s'inquiète de l'orientation des vôtres. Ceci, à ses yeux, ne vous porte-t-il pas à inclure les réactions antimicrobiennes des insectes que vous étudiez dans des recherches immunologiques, un domaine jusqu'alors exclusivement médical et répondant de mécanismes immunitaires totalement différents et étrangers aux insectes ? Une voie bornée, peut-être. Il est heureusement des amis clairvoyants. Le professeur Nicole Ledouarin en est un bel exemple. Son intervention compétente et efficace en fera accepter l'idée au prix d'un compromis qui vous invitait à abandonner l'un des deux thèmes de votre laboratoire qui concernait les recherches endocrinologiques des insectes au seul profit de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la génétique de leurs défenses immunitaires. Décision capitale, en vérité, qui vous libérait d'une diversité contraignante et consacrer un seul thème de recherche dont résulteraient vos découvertes et l'aura qui les couronnera. Elle vous conduira dans les 20 ans qui suivront sur le chemin d'une exceptionnelle réussite en caractérisant chez la petite mouche du vinaigre plusieurs familles de peptides antimicrobiens actifs contre les bactéries et les champignons. C'est initialement en vous intéressant chez la drosophile au contrôle de l'expression du gène qui code pour un peptide, celui-là destiné à la destruction d'un champignon, la drosomycine, que vous avez découvert avec votre équipe et avec l'aide des outils de génétique moléculaire, le premier récepteur de l'immunité innée capable d'agir sur l'expression des gènes de la réponse immédiate. Veuillez bien imaginer, mesdames et messieurs les académiciens, ce récepteur comme un petit édifice moléculaire situé parmi d'autres dans la paroi de cette cellule responsable et sensible à un signal, constituant en quelque sorte une alarme biologique d'où résulte ce type d'immunité dite innée. Immunité innée qui repose sur deux conditions. Tout d'abord, reconnaître l'agent agresseur puis activer, la transcription de nouveaux gènes permettant de monter une réponse immunitaire efficace. Or, ce récepteur était déjà connu pour son implication dans un processus de développement, celui de l'axe dorso-ventral de la mouche et dénommé TOL, dont la traduction en français signifie « bizarre », une allusion ironique aux conditions qui ont accompagné sa mise en évidence et bien propre aux savants. Avec votre équipe, vous démontriez alors qu'une mutation entraînant la perte de fonction de ce récepteur TOL abolissait de façon spectaculaire la défense de la drosophile contre le champignon. La publication de ces résultats eut l'effet que l'on pouvait attendre. Elle engagea plusieurs équipes avec lesquelles vous collaboriez à rechercher des homologues de ces récepteurs TOL chez l'homme. 2 ans plus tard, il était démontré que des récepteurs semblables existaient bien chez lui, analogues à ceux qui étaient impliqués dans la réponse aux champignons chez la drosophile. Ces récepteurs, dont il existe 12 de versions à ce jour chez l'homme, ont pour rôle de fixer des particules appartenant à la paroi des microbes, des champignons, voire des virus, et d'activer par des cascades de signalisation intracellulaire, proches de celles trouvées chez les insectes, la transcription de nouveaux gènes. De l'insecte, on parvenait ainsi à l'homme, et je ne doute pas que vous souhaitiez que je cite ici quelques-uns de ceux avec lesquels vous avez vécu cette extraordinaire aventure. Charles Genway, de l'Université de Yale, Alan Ezekovitch de Harvard, Sunji Natori de Tokyo et Fotis Katafos, directeur du laboratoire de biologie moléculaire de Heidelberg, avec lesquels vous décidiez d'organiser à Versailles en 1993 le premier congrès consacré à l'immunité innée, à partir duquel vous conveniez d'unir vos efforts ainsi qu'avec ceux de beaucoup d'autres chercheurs, grâce à une subvention de 4 années pendant lesquelles seront précisés les mécanismes moléculaires de cette immunité innée et ses probables relations avec l'immunité adaptative. Vous signerez au terme de ce contrat, en compagnie de ceux-là, en 1999, un article retentissant dans la revue internationale Science, intitulé « Les perspectives phylogéniques de l'immunité innée ». Les conséquences d'une telle découverte éclairèrent d'un jour nouveau le vaste domaine de l'immunité. Qu'il me soit permis de préciser ici quelques notions pour qui, pour être scientifique, ne nous concerne pas moins, tout autant que nous sommes. L'immunité, c'est la capacité que nous avons de nous défendre contre les agressions microbiennes par le biais de 2 types de réponses. La première, qui est celle de la drosophile, que nous connaissons bien, faite d'une réponse immédiate dépourvue de spécificité, fine par rapport aux germes infectants, mais incapable d'en inscrire la mémoire dans l'organisme. C'est l'immunité innée, ci-dessus évoquée, un domaine resté peu exploré depuis les premières approches qui en avaient été faites par Elie Menchikoff et qui restait, il y a 20 ans encore, très mal connu avant que ne soit précisé par vous-même son rôle chez la drosophile. La seconde forme de réponse, par contre absente chez la drosophile, est appelée immunité adaptative. Elle est spécifique de chaque microbe agresseur de celle-ci et précisément douée d'une mémoire, ce qui permet le développement d'une vaccination. Les cellules qui sont responsables de cette immunité adaptative sont les lymphocytes, globules blancs, dont certains produisent les anticorps. On soupçonnait bien que l'immunité adaptative, si essentielle à nos défenses antimicrobiennes, avait besoin d'être puissamment activée par des signaux provenant de l'immunité innée. Mais on ignorait totalement les mécanismes par lesquels les cellules de l'immunité innée, les macrophages doués de phagocytose et les cellules dendritiques, cellules d'alerte, pouvaient à la fois reconnaître l'infection microbienne et en réponse émettre des signaux activateurs de l'immunité adaptative. Les travaux de votre équipe, monsieur, ont levé cette ignorance. En vous intéressant à la drosophile, vous avez découvert le vecteur commun aux 2 types de réponses innées et adaptatives de l'immunité. Nous en pouvons déduire que l'immunité innée constitue la première ligne de défense contre les agents pathogènes qui nous agressent et que certains des acteurs cellulaires de cette immunité innée, une fois activés, vont jouer un rôle déterminant dans le déclenchement des réponses immunitaires adaptatives. Les récepteurs TOL ne sont rien moins que le système d'alarme qui déclenche le système immunitaire adaptatif. Ce qui n'est pas le moins surprenant dans cette découverte, c'est qu'on ait trouvé les réponses à ces questions fondamentales de l'immunologie chez l'insecte dont on pensait que ses réactions restaient différentes et indépendantes de celles des vertébrés. Une immunité innée partagée par 90% des espèces vivantes que sont ces insectes. Nous n'osons imaginer ce que nous aurions perdu si par inadvertance on avait jugé que leur étude était trop éloignée de nos intérêts scientifiques. Un argument fort en faveur de la liberté dont doivent jouir les chercheurs dans le choix de leur sujet. Qui eût cru que nos connaissances sur l'immunité aient dépendu à ce point de cette étrange petite mouche du vinaigre? Et pourtant, il est désormais démontré que de nombreux organismes animaux ou végétaux produisent ainsi des peptides antimicrobiens pour se défendre. De tels peptides ont été décrits dans la peau de l'homme et dans une formulation très similaire à votre drosomycine de la drosophile, mais aussi dans ses muqueuses. Et malgré la grande diversité évolutive qui a conduit à l'immense variété des espèces animales, les mécanismes qui assurent ces défenses sont restés étrangement proches les unes des autres au cours de centaines de millions d'années. Les gènes responsables de leur élaboration sont en grande partie redevables d'un activateur intracellulaire commun à pratiquement tous les groupes animaux et dans une remarquable identité fonctionnelle. Les récepteurs TOL, précédemment entrevus chez la drosophile, ne sont-ils pas d'ailleurs tout aussi présents chez la simple éponge de mer que chez les mammifères? Ces éléments, ces mécanismes, ressortent-ils d'une origine ancestrale commune ou d'une évolution parallèle? Une question à laquelle chacun d'entre nous aimerait donner réponse et dont on comprend la portée philosophique fondamentale. De tels résultats vous valurent, monsieur, de grandes promotions. L'Académie des sciences en 1992, des postes de haute responsabilité au CNRS, la direction du prestigieux Institut de biologie cellulaire et moléculaire de Strasbourg, des relations privilégiées avec les académies des sciences étrangères, des places d'honneur dans les congrès et de très nombreux prix scientifiques, pas moins de 14, qui vous seront remis par l'Académie des sciences, le CNRS, qui vous honorera de sa médaille d'or en 2011, de même que par le Collège de France, la Fondation pour la recherche médicale, suivi par les prix Balzan, Rosenstiel, Keillot, Gerner et Shaw, tous précédant le plus prestigieux d'entre tous, le prix Nobel, que vous partagerez en 2011 avec les immunologistes Bruce Butler et Ralph Steinmann. Ce dernier, nous le savons, mort hélas 3 jours auparavant et n'ayant pu l'apprendre. Récompense de l'étonnant parcours scientifique que vous avez accompli. Récompense aussi de l'incroyable travail qu'avec obstination vous avez conduit avec les vôtres, en dépit de ce qu'il vous a imposé de contraintes familiales, personnelles, dont vous seul et votre épouse peuvent connaître ce que parfois il en coûta. Malgré la précaution que vous prîtes de manager au sein de votre demeure, au cours des longues randonnées qui vous sont familières, un temps que vous consacriez tous deux à Marc et Isabelle, vos enfants, mais aussi de vous ménager un espace culturel en douce alternance à vos travaux. De la nature de cet espace culturel, je ne sais si j'aurais pu franchir la pudique barrière de votre personne sans le concours de votre grand ami Jean-François Bach. Souvenez-vous, c'est en sa présence que j'appris votre attirance pour l'histoire des religions, dépourvue certes de toute inclination théologique, mais lié à la grâce que les monastères vous inspirent, à leur architecture, aux échos des chants grégoriens qu'ils abritent, pour certains encore, ceux que vous appréciez tant et auxquels vous aimez mêler votre voix. À l'origine même d'un pèlerinage rituel en famille à l'abbaye de Hohenburg sur le mont Saint-Odile, dans ces Vosges proches de vous, alors que vous impressionnent ces murailles, ce mur païen qui l'entoure, chargé de mythes et d'histoires. Dans les Alpes aussi, où vous partagez le goût de l'escalade avec vos enfants devenus d'audacieux alpinistes, votre fils Marc ne rêvant que d'Himalaya, alors que vous n'êtes jamais très loin de quelque abbaye qui vous attire. Aurais-je su sans Jean-François Bach que vous étiez de surcroît un fin œnologue dont la cave, par ses Bordeaux et ses vins d'Alsace, enchante vos amis. Peut-être votre installation, monsieur, en notre compagnie, au terme de cette longue route, celle dont je viens de retracer les étapes, vous sera-t-elle apaisante ? Non pas que nous n'y sécrétions nous-mêmes les peptides acides des mots, mais la traditionnelle courtoisie de notre compagnie sait les neutraliser avec bonheur. Rassurez-vous, nos entretiens en son sein vous séduiront, et vous y retrouverez cette variété de propos que la littérature, la philosophie, l'art vous offriront. Sont de ceux dont vous aviez conscience que le temps vous manquait pour en profiter autant que vous le désiriez. Ce goût que vous en aviez au seuil de l'université, vous le retrouverez, et dois-je vous en faire confidence, avec une réelle joie. De cet aveu autant que de cette promesse, je ne donnerai qu'un exemple. Le rôle qui jouait celle dont vous rejoignez aujourd'hui le fauteuil, Madame Jacqueline de Romilly. Vous en avez imaginé sans doute au travers de son œuvre écrite tout ce que pouvait en offrir l'expression orale de ce qu'elle en donnait. C'est un privilège que nous eûmes pendant un temps que nous souhaitions jamais devoir finir, celui de l'écouter. Sous cette coupole résonne encore l'écho inoubliable de ses interventions, dont la dernière dite de mémoire fut bouleversante de sagesse, de grâce, autant que d'érudition. Dans l'intimité de notre compagnie, aucun d'entre nous n'a oublié l'habileté, l'humour, l'intelligence et souvent la délicate malignité avec laquelle Madame de Romilly précisait une pensée relativement à la définition d'un mot, la qualité d'un texte ou d'une référence au siècle de Périclès. Sa voix même et sa diction, fortement marquées par des années d'enseignement, donnaient à ses interventions une valeur pédagogique à laquelle nous étions très sensibles. Cette voix dont elle savait amplifier le ton lorsqu'elle plaidait la cause de l'enseignement du grec et du latin dans nos lycées. Vous l'avez lu, vous l'admirez, vous auriez aimé l'entendre. Nous, nous aimions l'entendre et nous sommes heureux qu'en son fauteuil siège désormais un homme de votre qualité, un homme de science dont il est agréable de penser que Madame de Romilly, aussi éloignée des sciences qu'elle le fut, aurait été fière de partager le savoir et de vous dire avec passion le sien. Telle est notre compagnie, qui a la vertu de mêler avec bonheur ce que cultivent les uns à ce que cultivent les autres, mais aussi, comme nous l'avons fait tous deux, dans le souvenir brillant et riche de nos confrères disparus. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue en notre compagnie.
Vous venez d'entendre l'intégralité de la séance de réception au sein de l'Académie française de Jules Hoffmann qui s'est déroulée le 30 mai 2013.